Allô, bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de true crime québécois et canadien
préféré. Entendez-vous nos voix soivées?
En fait, nous, on les entend.
Ouais, nous, on s'entend.
Parce qu'on a des écouteurs pour la première fois.
Oh mon Dieu. Fait que là, tu sais, vous me connaissez à partir de maintenant, pas à partir de maintenant, mais depuis le temps que
depuis trois ans.
Que la chose que j'aille le plus au monde, c'est m'entendre puis que je suis pas capable d'écouter. Là, j'ai des écouteurs sur la tête, fait que je m'entends.
Ouais, on s'entend beaucoup.
Ouais, mais c'est quelque chose. Mais le son va être... amélioré.
Ah, le son va être sacoche.
Sacoche. Fait que là, on se l'est fait dire là, que l'autre fois, mon micro, il y avait de la misère. On a réglé les problèmes. Là, on a de l'équipement de fuego que Hélène et Anthony se sont gâtés. Fait que là, on ne devrait plus avoir de problème de son à partir de maintenant.
Ouais. On espère.
Voilà. On peut quand même... On faisait un peu de ASMR tantôt. C'était un peu trop. Ceux qui veulent qu'on starte une chaîne de ASMR...
Vous nous le direz.
Avec nos voix sensuelles. Là, on entend tout. OK, là, il faut quand même être un peu indulgent. C'est notre première fois. On remarque que les micros, ils captent vraiment tout.
Ouais.
Deux portes plus loin, Hélène avait une sécheuse qui fonctionnait. Il a fallu l'arrêter parce qu'on l'entendait.
Ouais.
Alors, les micros sont vraiment sensibles. Fait que donnez-nous une petite chance. On va s'adapter. OK, la gang?
Yes.
Parfait. On start ça comment?
Un crime de potin.
On en est-tu?
Je sais pas.
Je dis ça. Il
semble que t'en notes, toi.
Ça fait un mois que j'ai pas répondu à personne. j'en ai noté, j'ai 8 pages.
Juste ça?
De potins. Sur le document Word. On est en feu. Vous êtes en feu, la gang?
Ouais, vraiment.
Il y en a des juicy, là.
Ah ouais?
Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Ben, je sais pas. Je sais jamais si les gens veulent qu'on les nomme. Fait que je vais toujours... Je pense que je vais garder l'anonymat à partir de maintenant. Il y a une fille qui nous a écrit sur Instagram, elle dit « Allô les filles, j'écoutais Paul Arcan ce matin puis il parlait de Michel Vautour, le violeur de Laval de votre épisode Le Vautour. Il a été accusé hier sur le kidnapping raté de la jeune adolescente qui avait réussi à s'enfuir, puis il me semble que c'était pendant qu'il était en maison de transition. Bref, il y a eu une sentence de prison à durée indéterminée, apparemment une sentence très rare. La juge Annabelle Schaeffer a mentionné que les cas des gens qui réussissent à sortir de prison avec ce jugement-là sont vraiment rares. Elle mentionnait avoir donné cette sentence due au haut taux de récidive et qu'il n'y avait aucune amélioration sur son état depuis son arrivée en prison. Je trouvais important de vous le mentionner, mais je doute que vous en avez même déjà entendu parler.
Oui, c'est vrai. J'avais vu un article qui a été... il a été... pas diagnostiqué, mais en tout cas, son titre, c'est genre criminel dangereux,
ouais.
Prédateur dangereux. T'sais, fait qu'il y a comme le plus haut niveau... Il est comme flagué le plus haut niveau, fait que ça se peut qu'il sorte jamais de prison. Même s'il a fini.
Ce serait pas un problème.
Ce qui serait une bonne affaire. Fait que même s'il finit sa sentence à cause qu'il est comme criminel dangereux, probablement qu'il sortira jamais.
On a aussi un potin sur l'ado jaloux. Genre, il y a tellement de gens qui nous écrivent par rapport à cette histoire-là.
Ouais.
Encore anonyme une fois. Elle dit « J'ai écouté l'épisode de l'ado jaloux la semaine passée et vous êtes revenu sur cette histoire en disant que Kevin Sirois avait supposément eu une aventure avec son intervenante à Pinel. Bien, j'ai un ami qui est en prison avec lui présentement et je vous apprends qu'ils sont maintenant même mariés. »
Oh!
Kevin et son intervenante.
Oui. Ah, mais c'est pas comme qu'on avait su ça.
Ouais, ça aurait l'air que Kevin a beaucoup fait progrès face à ses démons puis que c'est un gars plutôt très chill.
Bon. Ben, good for c'est you, confirmé. Kevin.
Kevin, ouais, c'est Kevin. C'est confirmé. Je voulais faire un shout-out aussi à Émilie, l'amie, à mon amie Marie-Pierre Caron, qui nous écoute, puis qui en a parlé à Marie, puis qui nous a envoyé des beaux mots, puis qui a dit qu'on était bonne, puis qu'on était fine, puis qu'on était magnifique, puis j'en mets pas vraiment du tout.
Yay! Allô!
Allô, Émilie. T'es-tu prête pour mon histoire?
Oui. Tu m'as dit que c'était déprimant.
Ben, tu sais, quand je t'ai interdit de parler d'enfants.
Ouais.
Ben aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'un enfant.
C'est bon. Fait que la règle s'applique à moi, mais pas à toi.
Exactement. Mais t'es quand même exagéré. T'es quand même exagéré.
C'est vrai que j'étais allée loin.
Oui, t'es allée loin. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire du meurtre du petit Nicolas Desnoyers-Langlois, qui est une histoire... j'ai eu de la misère.
Ah ouais?
Ouais. On est en 2006. Dans le quartier Unstick à Montréal, où habite la famille Desnoyers-Langlois. Une famille composée de Réal Langlois, de Louise Desnoyers et de leurs deux garçons, Nicolas, 8 ans, et son frère et son grand frère. L'identité du grand frère est protégée, donc confidentielle.
Okay.
Louise et Réal sont mariés depuis plus de 30 ans, mais leur relation ne va pas toujours bien. Même que en 2006, ça faisait déjà 4-5 ans que ça allait pas du tout. La relation est conflictuelle. Louise a le même des épisodes dépressifs fréquents. En août 2006, la famille part en vacances. Les vacances se passent malheureusement pas très bien côté relation de couple, mettons.
Mm-hmm.
Le 13 août 2006, la famille est de retour à la maison. Et le lendemain matin, donc le 14 août, Réal annonce à Louise qu'il veut divorcer.
Mm.
Et il dit qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'attirance physique pour elle depuis au moins 4 ans. La discussion s'enflamme, le ton monte. Réal, il se met à crier un moment donné, même, il est tellement à bout, il dit « Je veux la paix, la paix, la paix. » Louise a pleuré, elle menace de suicider si Réal la quitte. La journée passe. Un peu plus tard, Louise regrette puis elle revient sur ce qu'elle a dit à son mari. Elle explique à Réal que ses paroles ont dépassé sa pensée puis qu'elle ne veut plus se suicider.
OK.
Après souper, Réal et son fils aîné partent faire des commissions au Costco. Nicolas, lui, y est chez le voisin qui se trouve être un bon ami à lui de son âge et Louise reste toute seule à la maison. Vers 19h, toujours la même journée, le 14 août, Réal est au Costco avec son fils, mais il a comme un mauvais pressentiment. T'sais, sa femme était vraiment troublée.
Mm-hmm.
Puis avec ses épisodes dépressifs passés, t'sais, il craint qu'elle va se faire du mal. T'sais, il est quand même menacé de se suicider le matin. Bref, il dit à son fils, on laisse tout ça là, on s'en va chercher Nicolas, on s'en va à la maison. Une fois arrivé à la maison, pas de Louise, puis pas de voiture dans l'entrée, pas de Nicolas. Réal, il cogne chez le voisin pour aller chercher son fils. Mais le voisin, il dit que Louise est déjà venue chercher. Réal, là, il se met à sérieusement s'inquiéter.
Mm-hmm.
Il y a vraiment un mauvais pressentiment.
Mm.
Donc, on recule un peu dans le temps. Louise, elle, quand son mari et son fils, ses deux fils n'étaient pas là, était toute seule puis elle est déprimée chez elle pendant qu'il est au Costco, chez le voisin et tout.
Mm-hmm.
Elle essaie de trouver quelque chose à faire pour se changer les idées. T'sais, elle a vraiment de la peine. Elle décide finalement d'aller chercher Nicolas puis de l'amener magasiner.
Okay.
Bon, Nicolas, 8 ans, pas très emballé à l'idée d'aller magasiner. Fait que finalement, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, c'est la discussion, mais sa mère a dit sûrement on va aller faire un petit road trip à la place.
OK.
Un petit, je sais pas, road trip, c'est quoi en français, là? Une balade à voiture. Donc, Louise conduit pendant à peu près 1h30 en direction du Vermont. À 21h, elle et Nicolas traversent la frontière des États-Unis. Ils traversent aux douanes de Rouses Point en passant par Saint-Bernard-de-la-Colle. Un autre 25 minutes de route et là, ils arrivent à l'île Lamotte, au Vermont. Pourquoi ils se rendent exactement là, tu vas me demander. Mmh, Je le vois dans ta face.
Oui, précis comme destination.
C'est très précis. C'est en fait un endroit que la famille connaît vraiment bien parce qu'ils ont souvent loué un chalet là pendant plusieurs étés. Donc, c'est d'ailleurs là que le petit Nicolas, qui aimait beaucoup le sport, c'est là qu'il apprend à nager puis à faire du vélo. T'sais, il allait vraiment souvent. Donc, il connaissait très bien la place. J'ai googlé, c'est vraiment mignon, c'est vraiment une petite île. C'est dans le lac Champlain, c'est vraiment beau.
Okay.
Louise et Nicolas arrivent donc au chalet qui est vide ce soir-là. L'île Lamotte, comme je disais, c'est au cœur du lac Champlain. Donc, le chalet en question donne sur le lac. Louise amène Nicolas sur la plage, puis... Selon les dires du propriétaire de la maison voisine, ils se mettent à discuter longuement, une discussion calme entre mère et son enfant. C'est pas agité du tout. Après la discussion, Louise amène Nicolas à environ 40 pieds, genre 12 mètres de la rive. Elle a l'œil à peu près de l'eau jusqu'aux cuisses. Donc Nicolas, 8 ans, c'est pas très grand.
Mm-hmm.
Il devait en avoir pas mal jusqu'aux cou, à torse. Ouais. Il fait noir. Soir de pleine lune. D'un coup sec, Louise, elle prend la tête du petit Nicolas de 8 ans, puis elle plonge sous l'eau.
Mmh.
Elle sort, elle recommence. Mmh. Elle sort, elle recommence. Le pauvre garçon, il tente de se défendre. Il crie « Qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que tu fais, maman? » Mais sa mère est plus forte que lui. Nicolas meurt donc noyé par sa propre mère dans le lac Champlain.
Oh my God.
Quand elle voit le corps de son fils flotter, après l'acte, Louise est comme prise de panique. Et là, elle aperçoit un peu plus loin une bouée pour petit bateau qui flotte sur le lac. Elle attrape la bouée, puis la bouée est attachée à un vieux radiateur en métal rouillé qui gît au fond de l'eau. Okay. Dans le fond, le radiateur, il devait être lourd,
ouais,
fait qu'il agit comme ancre.
Ouais.
J'ai une photo. Je sais pas si on va la publier, c'est un peu intense.
Ouais.
Tu vois le radiateur là?
OK.
C'est qu'on a dans les vieilles maisons, le vieux chauffage
en maison. Ouais, truc à eau chaude, ouais.
Donc ça sert comme d'ancre à la bouée. Donc Louise, elle détache la bouée du radiateur, puis elle défait une sangle de sa sacoche à elle, et elle attache le corps inerte de son fils au radiateur.
Pour qu'il soit comme
pour le faire couler.
OK, ouais. Mm.
Là, Louise, elle réalise ce qu'elle vient de faire, puis là, elle capote. Elle tente immédiatement de s'enlever la vie. Apparemment, qu'elle se frappe violemment avec des roches qu'elle trouve. Elle tente de s'étrangler avec l'autre sangle de sa sacoche, mais rien fonctionne. Elle abandonne son fils au fond de l'eau. Elle rejoint la rive, tente de trouver refuge. Elle se rend à sa voiture, puis elle marche jusqu'à une petite remise abandonnée de l'arbre un peu plus loin. C'est à cet endroit exact que les policiers du Vermont ils vont la retrouver le lendemain matin. Pas sans vie, mais inconscient.
OK.
Quand Louise est retrouvée, elle est évidemment dans un piètre état.
Mm-hmm.
Elle a les poignets taillés, elle a un sac de plastique sur la tête et une chaîne autour du cou. Elle est immédiatement transportée en ambulance vers l'hôpital de Saint-Alban, toujours au Vermont. Dans la voiture de Louise aussi, les policiers retrouvent sur le siège passager avant un gros contenant de lave-glace vert qui est couvert de sang.
Hein?
Genre, sûrement qu'elle en a bu.
Ouais.
Puis ça. Il y a du sang qui est sorti de sa bouche, fait que ça a coulé.
Ouais,
ça,
elle avait les poignets tailladés, t'as dit?
Peut-être, mais le sang, tu sais, j'ai vu la photo, le sang, il partait du bouchon.
Ah, OK.
Comme si elle recrachait.
Mais attends, question. Comment ils ont fait pour la retrouver? Est-ce que tu le dis plus tard? Ou genre, c'est le mari, mettons, qui a fait un endroit à checker, ce serait cette place-là, parce qu'on y va souvent, genre, il a pensé à ça?
Je sais pas comment il a fait pour la retrouver, le sur le dit pas. Ben, j'ai l'impression que le voisin qui a parlé, il a peut-être...
Peut-être qu'il a parlé, s'il connaît le proprio qui loue le chalet, il a dit « Hey, il y a du monde, t'as-tu loué? » Peut-être. Tu sais, il est supposé être loué en ce moment? Genre?
L'histoire le dit pas, je sais pas comment il a fait pour la retrouver.
OK.
Mais ça s'est fait quand même vite, parce que c'était le lendemain matin.
Ouais.
Ou peut-être, tu sais, dans l'eau, il se débattait en pleine nuit. Peut-être que les voisins ont alerté, je sais pas. Ouais. C'était une petite île tranquille, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas.
Mm.
Bref, je sais pas, je peux pas... C'est des spéculations, je sais pas.
OK.
On découvrira lors de l'enquête que Louise, elle avait bu une très grande quantité de lave-glace, probablement dans ses nombreuses tentatives de suicide ce soir-là. On retrouve aussi dans la voiture une note. La note dit ceci. Chers amours de ma vie, je n'ai jamais voulu faire de mal. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, vous blesser, vous humilier. Vous aurez la paix. Nicolas est donc avec moi. Je vous aime, Louise.
Mm.
En fouillant les effets personnels de Louise, les policiers voient qu'elle vient de Montréal. Passons aux États-Unis, on s'entend.
Okay.
Le détective en charge de l'affaire, le détective Edward Meslin, communique donc directement avec le SPVM, la police de Montréal. Il apprend au même moment une nouvelle choquante qu'il ne savait pas. Quand Louise a traversé la frontière, elle n'était pas toute seule.
Mm-hmm.
Elle était accompagnée de son fils de 8 ans. Lui, il ne savait pas parce que quand ils l'ont retrouvée, elle était toute seule.
Ben ouais.
Il ne pouvait pas savoir qu'il y avait un petit gars avec elle. Là, Nicolas, il est où?
Mm-hmm.
Ils se mettent donc immédiatement à la recherche de du petit.
OK, ben ça répond à ma question que c'est pas à cause du père.
Non, c'est pas le père.
Ils n'ont pas été contactés par...
Non.
Par le SPVM avant. Fait que c'est vraiment la police du Vermont qui sont allés checker. Probablement à cause des voisins, en fait.
Ouais. Pendant les recherches, les agents de police sur l'île apprennent que la famille Desnoyers-Langlois a l'habitude de louer le chalet sur l'île en question. Mm-hmm. Parce que là, elle n'est pas au chalet, elle est dans une petite maison.
Mm-hmm.
Un peu plus loin.
Okay.
Vraiment proche, mais pas sur... Il y a des articles de journaux qui disent que la petite maison, la petite remise était sur le terrain du chalet.
Mm-hmm.
D'autres disent que non. Je sais pas. Donc, oui, ils apprennent qu'ils louent souvent le chalet. C'est une petite île, ça devait être connu de tous. Donc, ils arrivent sur les lieux du chalet. Les policiers trouvent sur l'asphalte du stationnement avant, directement devant la voiture, ils retrouvent des sous-vêtements de petits garçons, une paire de petites shorts puis une serviette.
Mm.
Le chalet est complètement vide. c'est probablement à ce moment-là qu'ils comprennent qu'il s'agit très probablement d'une scène de crime, puis là, ils s'attendent au pire.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a peut-être ça aussi, là. Peut-être le voisin a vu des vêtements dans l'entrée. Ouais. C'est bizarre, tu sais. Le détective Meslin décide d'aller marcher sur le long de la rive en face du chalet à la recherche d'indices. Sur des roches à moitié dans l'eau, il voit un manteau bleu marin avec des lignes rouges. Clairement un manteau de petit garçon. Autour, sur la plage, le détective y voit plusieurs contenants de lave-glace vert, exactement comme celui qu'ils ont trouvé dans la voiture de Louise. Puis j'ai vu la photo, il y en avait au moins 4-5. Hey. C'est des gros contenants, là, des genre 2-3 litres.
Hey.
C'est vraiment gros. Un policier se rend à l'hôpital pour interroger Louise, qui est toujours consciente. Elle est sous choc. On lui pose plusieurs questions concernant Nicolas, mais elle reste vraiment vague dans ses réponses. Puis, elle répète de nombreuses fois que son fils y est en paix avec lui-même. Après quelques minutes de divagation, elle finit par déclarer qu'elle a tenu son fils sous l'eau puis qu'elle l'a laissé au fond du lac. Donc là, on sait qu'est-ce qui est arrivé au petit Nicolas.
Fait que là, ils savent où regarder.
Là, ils savent. On fait un petit retour en arrière. Là, je vais te raconter comment cette soirée-là s'est passée du côté de Réal et du grand frère de Nicolas. Donc, eux, ils sont au Costco, ils viennent de revenir, ils sont à la maison, cognent chez le voisin, Louise et Nicolas, introuvables. Ils n'ont évidemment aucune idée de la tragédie qui est sur le point d'arriver, mais ils s'inquiètent quand même. Ils se mettent donc à la recherche des membres de leur famille. Après à peu près 2 heures de recherche, ils appellent les amis, la famille, nanana, Réal, il décide de se rendre au poste de police de son quartier, le poste 27, à Onistique. La porte est débarrée. Il rentre à exactement 22h20. Je veux dire, pourquoi cette heure-là est importante?
Précis.
C'est très important. Sur place, il y a un agent qui est là. Réal, il explique au policier la situation. Il mentionne que sa femme, son fils sont introuvables, puis que sa femme a le même aujourd'hui même tenu des propos suicidaires et tout. Il explique aussi qu'elle est partie vraiment troublée, elle est partie en voiture, puis lui, il s'inquiète qu'elle fasse un accident de voiture. C'était ça sa crainte, dans le fond. Le policier, il l'écoute, puis il répond. Le poste est fermé. Parce que le poste fermait à 22h.
Ouais.
Fait que lui, il avait fini son chiffre.
OK.
Tu comprends? Fait que là, il dit à Réal que lui, il vient de finir son chiffre, ça, il veut pas ouvrir de dossier. Il est 22h20, il est passé 22h, tu vois. Fait que là, il dit... Pour avoir de l'aide, il faut que tu retournes chez toi puis que tu appelles le 911. Imagine qu'à cette époque-là, les cellulaires n'étaient pas... Il y en avait peut-être...
Moi, 2006, il n'y en avait pas tant.
Ouais, donc, Réal, il voit qu'il ne peut rien faire. Là. Le gars, il veut rien savoir. Il l'écoute, il s'en va, il retourne chez lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que... Réal, ce qu'il ne savait pas, c'est que dans le poste, dans la pièce d'à côté, il y avait aussi la responsable du corps de nuit qui était là. Sergente Josée Delonchamp. Elle a tout entendu la conversation, puis elle a décidé de ne pas intervenir.
Hein?
Ça a de l'air.
Ça ne tentait pas, elle voulait passer une nuit relaxe?
Je sais pas. De retour chez lui, Réal, il est rendu 23h40. Il passe un appel au 911. Il est fatigué, il est plus qu'inquiet, il a la difficulté à parler, il pleure sans arrêt. Il réussit quand même à expliquer la situation à la répartitrice qui a répondu. Elle s'appelle Nathalie. Quelques minutes après l'appel, Réal et Nathalie raccrochent et Nathalie, la répartitrice, elle téléphone au poste 27 pour discuter avec la sergente Delonchamp, la responsable qui était là, de la situation. Voici un extrait de l'appel. Donc, Delonchamp dit, en parlant du cas de Réal, elle dit « Ça a l'air plus gros que c'est, le monsieur est venu au poste tantôt, c'est plus un cas de divorce puis il est en crime contre sa femme. » Nathalie dit « Ah, c'est ça que j'ai pensé. » Delonchamp C'est juste pour te fider un petit peu, là. Il a amené son gars, le plus vieux, puis là, il s'en venait chercher son autre gars, mais elle est partie avant lui, fait qu'il est fâché, tu sais. Nathalie. OK, il y en a une moitié, puis il n'y a pas l'autre moitié, c'est ça? Delonchamp. Ben, c'est ça. Puis là, il en met pas mal, mais on sait pas la version des deux bords. Puis sa femme, Nathalie. C'est beau, alors je mets ça en stand-by. Delonchamp. Ouais, ils sortent anyway. Nathalie, super. Delonchamp. C'est juste pour te dire que j'étais au courant. Nathalie, vous êtes gentille, merci.
Fait que les deux, ils prennent ça zéro au sérieux.
Exactement.
Zéro point de bord. Même là, s'il a dit qu'elle avait des pensées suicidaires cette journée-là.
Exactement. Et là, j'ai oublié de le mentionner au début, mais mes sources, j'ai complètement oublié de le mentionner. Des articles de CTV News Et il y a un reportage de Denis Thériault qui a passé à JE en janvier 2018, qui est vraiment complet, dans lequel Réal Langlois apparaît.
Okay.
Il est là, il commente et tout. Et dans ce reportage-là, Denis Thériault, le reportage, il date de janvier 2018. Donc, c'est 11 ans après la mort du petit Nicolas. Donc, Denis Thériault fait entendre cet extrait que je viens de te lire à Réal Langlois. Ouais. Et lui, il l'avait jamais entendu.
Oh my God. Oh, il devait être en tabarnak.
Et là, je te dis, j'ai pleuré. Après l'écoute, tout ce qu'il dit, Réal, c'est... Il demande, la femme qui parle, c'est de Longchamp. Tu sais, il sait très bien c'est qui. Le dernier, il répond oui. Fait que là, on voit que Réal, il est complètement découragé. Il se met à pleurer, il est sans mots. Après 11 ans, il réalise à quel point son appel n'a pas été pris au sérieux.
Oh my God.
C'est capoté. Donc, à minuit 52, toujours le même soir, deux policiers cognent à la porte de Réal. Ils finissent par faire quelque chose.
Bon.
Il pose de nombreuses questions à lui puis à son fils aîné pour obtenir le plus de détails possible. Il demande des informations précises sur la voiture au cas où Louise serait impliquée dans un accident comme Réal pensait. Réal fait part de son inquiétude plusieurs fois, puis un des policiers y répond, très rassurant, « Écoute, si elle avait quelque chose à faire, elle l'a déjà fait. »
Il avait raison.
Il avait raison. C'est ça que Réal a dit dans un des articles que j'ai lu, je pense. Il avait raison, mais quand même.
Mais quand même, c'est... Ouais.
Bref, il requiert une panoplie d'informations sur Nicolas, sur Louis, sur la voiture, la plaque d'immatriculation, les vêtements qu'il portait, name it. Mais, ils en font rien. On garde toutes ces informations-là. Ils font rien. Pas d'alerte aux autres policiers, pas d'alerte aux services frontaliers, rien. Donc, personne d'autre au Québec qui était au courant de la disparition de Louis et Nicolas. Vers 3 heures du matin, au poste de police 27 d'Anstic, les policiers tiennent une réunion. La responsable de nuit, Josée Delonchamp, et son supérieur, Jocelyn Angers. Angers? Angers ou Angers, je sais pas.
Ça, c'est où? C'est aux États-Unis?
Non, ben ça, c'est
au poste frontal. Ok, ouais.
Ils sont sur place. Tous les agents et les sergents présents discutent de la situation de Réal Langlois. Dans le rapport de la réunion qui a été signé par Delonchamp, on peut lire. Et je cite. Après discussion, nous venons à la conclusion que nous n'avons aucun élément, après plus de 5 heures de recherche, qui nous laisse croire ou soupçonner qu'il y a un danger quelconque. Rien ne nous dit que la mère est dépressive ou suicidaire au dire du père.
Au dire du père, elle l'est.
Elle a dit que non. Rien ne nous dit que la mère est dépressive ou suicidaire au dire du père. Et dans un autre rapport de la même réunion signé par Jocelyn Angers, colique, on lit à peu près la même affaire. Il dit « Je n'ai pas détecté qu'il y avait un danger grave et immédiat suite à cette rencontre. » Donc là, c'est ce genre de fausses constatations-là des policiers impliqués qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pris aucune action dans la disparition de Nicolas et Louise. Donc, la question se pose un peu. T'sais. Est-ce qu'on aurait pu éviter le drame si on avait suivi le protocole de personnes disparues correctement?
Ouais.
C'est exactement la question que se pose encore aujourd'hui Réal, qui pleure encore la mort de son fils de 8 ans.
C'est toujours. Tu t'en remets jamais de ça. Et à quelle heure qu'elle a traversé les douanes?
À 9 h.
C'était
déjà fait, c'était probablement.
Déjà fait. Ouais.
Mais quand même.
Il aurait peut-être pu, s'il avait passé le mot, il aurait pu le voir aux douanes qui était sorti du pays.
Écoute, elle est sortie à 9 h. On ne sait pas exactement à quelle heure Nicolas est décédé. Mais on sait que c'était en plein milieu de la nuit. Fait que peut-être que, tu sais, rendu là... Il est rentré au poste à 10 h.
Oui.
Tu sais, elle a passé les douanes à 9 h. Puis elle a reconduit encore une trentaine de minutes. Puis après ça, ils ont jasé quand même longtemps. Ils sont débarqués de l'auto, tu sais. Il était peut-être pas encore 10 heures. S'il y avait eu... En tout cas, ça, c'est ma théorie, là, mais... C'est lui, il est rentré à 10h20 au poste. S'il y avait alarmé... Normalement, de ce que j'ai compris, le protocole, c'est quand quelqu'un dit qu'une personne est disparue, il faut tout de suite alerter le CRPQ, je pense. Puis, à ce moment-là, il y a une alerte qui est envoyée. T'sais, toutes les policiers du Québec le savent. Puis, je pense que tu peux envoyer l'alerte au service frontalier aussi. Fait que ça aurait été flagué, tu sais.
Ouais.
Et où? Fait que je sais pas.
Ouais, tu sais, on le saura jamais. C'est une question de minutes. S'il aurait pu le sauver, mais.
Non. Mais tu sais, quand même.
Mais quand même, c'est juste vraiment frustrant. Vraiment, vraiment.
Exactement. Donc, À son arrestation officielle en août 2006, Louise Desnoyers est accusée du meurtre au premier degré. De meurtre au premier degré, mais, dû à son piètre état psychologique, est déclarée inapte à subir son procès. 2 ans et quelques plus tard, presque 3 ans, Louise est accusée de meurtre prémédité, mais les avocats des deux parties s'entendent finalement sur une accusation de meurtre au deuxième degré. À plaide coupable.
OK.
Le procès commence le 20 mars 2009 à North Hero, au Vermont. Donc, quasiment 3 ans après. Dans la salle, c'est un peu un cas spécial parce que il y a vraiment beaucoup d'amis et d'enseignants-enseignantes qui ont travaillé avec Louise, notamment à la commission scolaire des affluents, qui sont présents pour la soutenir. Dans sa carrière d'enseignante, Louise a toujours été vraiment appréciée par son entourage. Le juge a même reçu une pétition de 100, 598 noms et une vidéo de 30 minutes qui atteste que Louise est une bonne personne.
Ah ouais. Wow.
Puis ça a l'air qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignants puis d'amis qui la visitaient pendant qu'elle était détenue puis tout. Jamais de membres de sa famille, mais beaucoup d'amis.
Mm.
Quand Louise a témoigné, elle demandait pardon, elle pleurait sans arrêt. Puis aussi, elle essayait de mettre une petite partie de la faute sur son mari. qui, selon elle, l'a pas soutenu lors de ses plus récents épisodes dépressifs. Elle dit aussi que la raison pour laquelle elle a tué son fils, c'est qu'elle voulait pas qu'il souffre de la séparation de ses parents. Elle se contredit un petit peu à ce sujet-là.
Ah ouais.
Elle dit des choses comme, et je cite, elle dit « On a été 30 ans ensemble, c'était pas toujours drôle. » Elle dit aussi « Réal n'a pas vu dans quel état j'étais. » Et elle finit par dire « Je suis pas une meurtrière, je ne veux pas penser qu'on me voit comme ça. Ce soir-là, je n'étais pas moi. J'étais hors de mon contrôle, j'étais dans un trou noir. Chaque jour, je me pose la même question. Pourquoi tout est devenu noir? Pourquoi j'ai pris sa vie? » Selon l'expert de la défense, le psychiatre David Rosmarin, j'ai vraiment de la misère avec les noms, Louise était en état de dissociation quand elle noyait son fils. Elle voulait pas tuer son fils, mais elle voulait se tuer elle-même.
OK.
Comme pour elle, c'était comme son propre suicide.
Ouais.
Ce qui vient un peu contredire cette théorie, c'est qu'après la mort de Nicolas, Louise allait dire au psychiatre Jonathan Weaker qu'elle avait noyé son fils juste parce qu'il se débattait puis qu'elle avait pas d'autre choix de le noyer. Donc ça vient comme se contredire un peu. Il y a un autre point qui joue pas du tout en la faveur de Louise. Dans le rapport d'analyse toxicologique fait sur Nicolas, on indique que le petit avait 190 ml de codéine dans le sang. La codéine, c'est un puissant analgésique.
Oh.
Puis 190 ml, c'est vraiment une grosse dose.
Oh.
Donc, le garçon, il a été drogué avant d'être assassiné.
Mm.
La seule affaire, c'est que, pour une raison inconnue, l'élément n'a pas pu être présenté en cours.
Ah, ouais.
C'est quand même un gros élément. Ben, je sais pas pourquoi.
Mais
ça...
c'est pas juste. T'sais...
Ben, c'est prémédité. Là.
Ben, c'est ça, c'est prémédité. Ouais, en tout cas. Ben, prémédité dans cette soirée-là, tu sais.
Ouais.
Dans le sens que je pense pas qu'elle a pensé à tuer son frère. Ouais,
je sais
avant,
pas, prémédité, t'sais. Ça va.
Mais c'était pas genre soudainement dans le lac, elle a. T'sais.
Non,
non, c'est ça. Ouais. Il y avait de quoi avant, là.
Je sais pas, prémédité, ça va jusqu'à quand? Si t'es plusieurs heures avant, tu drogues ton fils, tu sais, elle est partie quand même de la maison à 7h30.
Je pense que ça serait pas considéré comme prémédité parce que ce serait comme dans son moment, tu sais, son moment de dissociation / folie, c'était comme plusieurs heures, genre.
Ouais, peut-être.
Ouais. En tout cas.
Faudrait googler. Les experts, dites-nous, prémédité.
Si j'étais avocate, il me semble que j'argumenterais ça. Mais je ne suis pas avocate, donc peut-être que je dis n'importe quoi.
donc ça n'a pas été présenté en cours. Je ne sais pas pourquoi.
OK, ouais, c'est quand même bizarre.
Heureusement, même sans cet élément important-là, le juge Michael Coppersmith, il n'achète pas le discours de Louise.
Mm.
Il dit, et je cite, « Il est clair que Mme Desnoyers était une bonne enseignante. Elle a le soutien d'amis et de collègues. Mais ce n'est pas de sa vie d'avant qu'il est question ici. Il s'agit de sa responsabilité dans la mort de Nicolas. » Il ajoute aussi qu'elle était très consciente de ce qu'elle faisait quand elle noyait son fils.
Ouais.
Donc lui, il n'achète pas tout ce qu'elle dit. Louise Desnoyers est donc condamnée le 20 mars 2009 à perpétuité pour homicide involontaire avec minimum de 15 ans de prison au Vermont. Comme elle a déjà passé 3 ans en détention dans un hôpital, il reste donc 12 ans à faire. Il lui est aussi interdit d'avoir des contacts avec son ex-conjoint et son autre fils.
Mm.
Apparemment, quand Louise a entendu ce verdict, elle pleurait puis elle criait « Je veux mourir, je veux mourir! » J'ai vu une photo là, tu vois qu'elle va vraiment pas bien, la dame.
Mais tu sais, autant je suis comme, oui, elle méritait une sentence de prison, puis... Mais en même temps, je peux croire qu'elle a vraiment regretté son geste, là.
Mais tu vois qu'elle était pas toute là.
Non, c'est ça. C'était clairement un moment de psychose, perte de contrôle, là.
De la tuer.
À tuer ton enfant.
Ton propre fils.
Ça, c'est ça, là. C'est toi les plus incompréhensibles des cas. Comment tu peux en arriver là? Tu sais, genre, t'enlever la vie, c'est une chose, là. Mais l'enlever la vie à ton enfant, c'est comme.
Puis comment tu fais pour prouver, tu sais, l'état de dissociation dont l'expert parlait, tu sais? C'est une bonne théorie, mais comment tu peux en. Tu sais, dans sa tête, à elle, elle se tuait elle-même. Elle tuait pas son fils. Comme elle était vraiment en psychose. Parce que je sais. Donc, voilà. Ça, c'était en 2009. Donc, le 16 août 2021, après 13 ans de détention, Louise est libérée pour comportement irréprochable. Ça, c'est 2 ans plus tôt que prévu.
OK.
Ça devait être très irréprochable, son comportement. Elle retourne vivre ici au Canada, puis les conditions de ne pas entrer en contact avec son ex-conjoint et son fils sont plus en vigueur. Parce que... Ça a l'air que le jugement américain s'applique pas ici.
Ah!
Fait que ça doit être pour ceux qui sont emprisonnés. Tu peux pas être emprisonné ici pour quelque chose que t'as fait aux États-Unis. C'est encore
ben ouais, c'est logique. Expert, ouais, c'est
mais
ça
a du sens.
Ouais.
Et là, l'histoire s'arrête pas là. Après le procès de son ex-femme, Réal, il commence à se poser la fameuse question. Est-ce que la mort de mon fils aurait pu être évitée? Et là, il réalise comme le piètre travail des policiers envers la situation. Puis il décide de porter plainte contre les 3 policiers et les 2 sergents qui ont été impliqués, qui n'ont pas réagi à la disparition de Louise et Nicolas en 2006. Donc en 2009, le cas de la famille Desnoyers-Langlois tombe entre les mains du comité de déontologie policière qui ouvre une enquête. Le résultat de cette enquête-là, il y a 3 agents, Robert Costa, Tri Dung Nguyen et Anthony Rowe, qui sont réprimandés. Là, réprimandés, je sais pas exactement comment.
Okay. C'est genre...
Une ça doit semaine, être une tape sur les doigts.
Ouais, ou c'est genre une semaine avec salaire en congé.
Ben
genre.
Écoute, attends, écoute ce qui suit. Eux, ils sont reconnus d'avoir manqué d'empathie puis de professionnalisme, mais c'est ça, j'ai pas plus d'informations. Les 2 sergents, José Delonchamp et son supérieur Jocelyn Angers, Angers, whatever, sont aussi accusés, mais eux, ils contestent leurs sanctions. Pendant plusieurs années, ils réussissent à user de tous les recours judiciaires possibles pour repousser leurs sentences. Encore là, je sais même pas c'était quoi les sentences. Et là, la cour d'appel a mis finalement un terme à ce cirque-là, ça n'avait pas de sens, le 1er février 2017, donc 8 ans.
Oh my God.
Après les premières citations à comparaître. Ils ont vraiment usé de tout ce qu'ils pouvaient.
Tu sais, accepte que t'as fait un job de marde, là.
Non. Ah oh, non, il accepte jamais. Le juge Manon Savard déclare, et je cite, « Selon l'agent Delonchamp, elle n'a pas manqué à ses devoirs. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle souligne que M. Langlois ne voulait pas porter plainte pour une disparition et l'information qu'elle possédait lui indiquait que la vie de l'enfant n'était pas en danger. Pour ces motifs, elle n'avait pas à faire inscrire les 2 personnes et le véhicule au CRPQ, le Centre des renseignements policiers du Québec. Donc, Jocelyn écope d'une déclaration d'inhabilité de 6 mois. Donc, il ne peut pas travailler pendant 6 mois. Par contre, en 2017, il était déjà à la retraite. Donc, ce que ça veut dire, si jamais il souhaite de sortir de sa retraite et de retourner travailler, il faudrait qu'il attende 6 mois.
Ok, mec.
C'est ça.
Fait qu'il y a rien, il y a aucune conséquence. Il y a rien, bref. Ouais.
Et Delonchamp, elle a une suspension de 5 jours ouvrables sans salaire. 11 ans après le meurtre.
Aïe, aïe.
T'sais... Et est aujourd'hui en poste permanent de responsable au poste 27 à Anstick. Elle a son poste permanent, puis elle a eu 5 journées de congé sans salaire.
Tu sais, genre juste le fait qu'elle ait entendu l'histoire, quand le gars il était au poste, puis qu'elle ait. Elle n'allait pas lever son cul, genre, pour aller le voir, alors que c'était son shift. Ça, je trouve ça...
Je comprends pas ça
débile. Je trouve ça vraiment débile.
Mais je me demande qu'est-ce qui... Parce que, tu sais, il y a la version de Réal. Là, il y a la version de tous les policiers qui disent toutes qu'ils voulaient pas porter plainte. Fait que, tu sais, peut-être, je sais pas, ils ont peut-être demandé « veux-tu porter plainte? » Il y aurait peut-être dans son inquiétude, puis dans... Tu sais, il a comme peut-être dit non. Tu sais, je veux dire, il doit avoir une raison pourquoi il y a 5 personnes qui n'ont rien fait.
Ouais.
Pas que je veux les défendre, non, là, mais...
Ouais. Mais tu sais, peut-être s'ils avaient pris le temps...
Yeah, c'est ça qu'ils n'ont pas pris le temps.
C'est ça, ils n'ont pas pris le temps de fouiller assez pour faire comme, OK, non, elle avait vraiment des pensées suicidaires cette journée-là. Mm. Elle a disparu, tu sais, là, ça fait plusieurs heures, tu sais. Ils ne sont pas chez ses parents, sont pas, elle n'est pas allée chez une amie, là, elle, on n'a pas de nouvelles d'elle, c'est inquiétant. Je sais pas. Mais tu sais, genre, ça se peut vraiment faire des erreurs dans notre job, on fait toutes des erreurs dans 100%. Notre job, puis c'est correct, mais juste comme de faire, c'est vrai, j'aurais dû voir les drapeaux rouges, puis je les ai pas vus, je les aurais pardonnés 100%. Mais c'est comme, ils se sont battus pour dire qu'ils ont tout fait correct, mais clairement, ils n'ont pas tout fait correct.
Non, puis même pendant toutes les audiences qu'ils ont eues au tribunal, pendant ces 8 ans-là, de Longchamp, ils ont jamais avoué avoir eu tort. De ce que j'ai compris des articles de journaux que j'ai lus.
Good.
Encore là, est-ce qu'on a toutes les informations? Je ne sais pas. Donc, je regardais aussi des reportages, puis il y a comme plusieurs personnes du domaine policier qui trouvaient que ça avait pas de sens non plus, puis qui trouvaient qu'il aurait dû faire quelque chose. Par exemple, dans un reportage de Radio-Can, il y a Jean-François Brochu, qui est un sergent enquêteur au crime majeur, mais qui est à la retraite, et il dit, et je cite, « À 22h45, il aurait dû le recevoir et se mettre immédiatement à son écoute. On aurait dû immédiatement enclencher un processus de recherche de madame et de l'enfant. Ça, c'est à 22h45 quand on est au poste de police. » On a fait une erreur en lui demandant de se rendre chez lui et de téléphoner au 911. Ouais. On a perdu énormément de temps.
Clairement. Clairement.
Tu sais?
Ouais. Ah non, c'est ça. Juste ça.
C'est là l'erreur, je pense. Et il y a aussi le commandant de la SPVM, André Durocher, qui disait dans un des reportages, et je cite, « Quand une personne se présente à un poste de police pour déclarer une disparition, on doit le prendre. C'est ce qui n'a pas été fait immédiatement avec M. Langlois.
» Oui, c'est... Ils ont pas fait ce qui était supposé faire.
Non, parce que je pense qu'ils ont fait un... Ils ont déclaré une disparition, mais juste le lendemain matin. Quelque chose comme ça. Fait qu'ils l'ont fait, ils ont fini par le faire. Mais ça a été trop long. Ouais. Fait que le problème, c'est la perte de temps entre 10 heures puis le lendemain matin, tu sais. Fait que bref, Réal, il se dit satisfait quand même des décisions du comité de déontologie, mais évidemment toujours un peu frustré de la situation.
Ouais. Puis ça ramènera pas son enfant.
Crime de potin.
Oh.
J'ai su, mais ça, c'est pas dans les médias.
OK.
Que après sa sortie de prison, Louise Desnoyers, en 2021, est restée 2 ans en centre de réhabilitation. Et cette année, en 2023, elle est retournée vivre dans son appartement. Et 2 mois plus tard, donc cet été même, elle s'est enlevée la vie dans cet appartement-là.
Oh.
Et aussi, ça a l'air que même si elle avait le droit de contacter son ex-conjoint et son autre fils, elle l'aurait jamais fait.
Oh, c'est triste.
Et ça, c'est pas dans le média, je l'ai appris il y a pas longtemps. Donc, Louise n'est plus parmi nous. Elle est avec Nicolas.
Ça me donne envie de pleurer.
C'est mes sympathies à la famille pour
moi. Ouais, vraiment. C'est vraiment horrible.
Mais j'ai vraiment l'impression qu'il manque des éléments dans cette histoire-là que je trouve que la couverture médiatique est pas...
Elle est pas complète, là?
Non. Il manque beaucoup d'éléments. Je sais pas si, tu sais, des fois, il manque des éléments d'histoire parce que c'est voulu, parce que la police veut pas trop
Elle veut pas tout dire, puis garder comme un peu de...
Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Je sais pas. Puis c'est le pauvre. Allez écouter, si vous pouvez aller écouter le reportage de J.E., qui date de Denis Thériault, qui date de janvier 2018.
Il est sur YouTube?
Ouais. C'est vraiment triste. Tu vois, Réal, il a comme accepté la situation, mais tu t'en remets jamais.
Ben non.
Donc voilà.
On dirait que ça me fait de la peine pour Louise.
Ouais.
Je suis comme... Elle a fait quelque chose d'impardonnable, mais...
Ben, ça l'est jamais pardonné.
Ben, puis elle s'est jamais pardonnée.
Ben, c'est ce qu'elle voulait, en bout de ligne. Elle voulait plus...
C'est ça, elle avait pas réussi à se suicider sur le coup.
C'est pour ça que je crois vraiment à la théorie de la dissociation, je sais pas.
Ouais.
Ben, encore là, j'ai pas lu le jugement de la cour, parce que le juge dit que elle était pleinement consciente de qu'est-ce qu'elle faisait.
Ouais.
Donc...
Consciente, mais en même temps pas dans son état normal, clairement.
Non. Et voilà.
Ah, bon. Tu m'as fait pleurer.
Petit cœur, désolée. Mais tu vois qu'est-ce que ça fait quand on raconte des histoires d'enfants.
Je sais.
C'est ça que tu me fais à chaque fois.
Mais la prochaine fois, je te jure, c'est vraiment plus doux.
OK. Mm. Tu veux-tu que je finisse avec une bonne nouvelle sur Saint-Jérôme?
Ouais, vas-y, remonte-nous le moral.
D'ailleurs, il y a deux personnes qui nous ont envoyé. Je pense que tu l'as vu. Le TikTok des photos de finissants
oui.
de Saint-Jérôme.
Oui, il y a deux personnes qui nous l'ont envoyé.
On va pas le partager, mais c'est vraiment trash. On montre des photos de jeunes garçons, je pense que c'est juste des garçons, qui finissant d'école à Saint-Jérôme. Puis après ça, ils montrent des photos du centre de détention de Saint-Jérôme parce qu'ils sont rendus dans ce centre. Puis il y en a genre 6-7 de la même année. Ça me fait capoter. La personne qui a fait ce TikTok-là, sérieux, c'est trash. Fait qu'on le partagera pas parce que c'est quand même intense.
Mm.
Mais sinon... Il y a Eve qui nous a écrit et elle dit « J'ai commencé le podcast la semaine dernière et je binge-watch. » Elle voulait mettre le mot « binge ».
Oui, il y en a beaucoup qui nous écrivent ça. Oui.
Je l'aime, ça là. Depuis, je suis rendue à l'épisode 53. Bref. « Vous cherchiez un fait agréable sur Saint-Jérôme. Honnêtement, c'est vraiment trash. Mais je vais à l'université à Saint-Jérôme et bien que le centre-ville ne soit vraiment pas hot, l'université est vraiment belle et les profs sont fantastiques. Le book humanitaire existe encore puisque j'y vais toutes les semaines dans le but d'apporter des boissons et des aliments.
Oh,
bravo, Eve.
Bravo.
Donc, Saint-Jérôme, c'est trash, mais il y a quand même des bonnes...
Il y a une bonne université.
Des bonnes nouvelles. Voilà.
Ben, écoute, merci pour cette histoire vraiment tragique.
Plaisir. Mm. Et désolée pour ma voix grippée, là.
Oui. Au montage, je vais couper
et je me
les
fais...
tout.
Hey, j'ai tellement toussé. J'espère que tu réussiras à toutes les couper.
C'est vrai.
Je me suis étouffée, genre, au moins 10 fois. Écoute, c'est la saison de la grippe, là, fin novembre. Voilà, c'est ça que ça fait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Continuez à nous écrire. On vous adore. Si jamais ça vous tente, on a de la merch. Je sais pas si vous avez vu. Un petit cadeau de Noël, c'est quand même nice, avec nos petites bines détectives, puis la bine trash, Jason.
Oui, la Halo Bean et la bine détective.
Oui.
Il y a plein d'affaires, là. Des t-shirts, des hoodies, des collants.
Tu t'en es commandé genre 44 en plus.
Et je me suis commandé plein d'affaires.
Je voyais quelqu'un qui avait passé une grosse commande, je disais, hein, cool, c'est qui? C'était Hélène.
Je suis vraiment contente d'avoir de la merch.
Ben oui, ben moi aussi, je vais m'en commander.
Devinez, ça va être quoi mes cadeaux de Noël?
Mais collé. Attachez-vous, la gang. Attachez-vous. En tout cas, vous allez recevoir des bines partout.
Ouais.
Donc, merci encore de nous avoir écoutés.
Oui.
À bientôt.
À la bine prochaine. Bye! Meurs pas.
Sorry.
Bye.